Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire des colonisations. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur l'Irlande, s'intéressant notamment à la première partie sur la conquête, c'est-à-dire avant Henri VIII, l'arrivée des Normands en Irlande. Et aujourd'hui, on va finir cette séquence conquête et s'interroger, est-ce que cette conquête est coloniale ? C'est parti ! On s'était quitté la dernière fois sur le traité d'Oxford de 1175. Henri II, roi d'Angleterre, maître de l'Empire angevin, avait conquis l'Irlande, en mettant la moitié de l'île sous le contrôle de la couronne d'Angleterre. Et une autre moitié, sous le contrôle nominal du haut roi d'Irlande, Rory O'Connor. Henri II n'avait pas pu tout conquérir. Les affaires du continent, la guerre avec le roi de France, se rappelaient à son attention. En 1175, du coup, le traité est signé et un administrateur, Hugues de Lacy, va prendre en charge l'Irlande au nom du roi d'Angleterre. Et quelques années plus tard, Henri II va attribuer le titre de roi d'Irlande à son fils Jean. Hugues de Lacy va alors se marier à la fille de Rory O'Connor en 1181, ce qui va d'ailleurs lui causer d'être rappelé de son poste. Et beaucoup de ces premiers aventuriers anglo-normands qui ont récolté des terres vont aussi se marier à des princesses irlandaises. Alors, restons clairs, vu le nombre de roitelets irlandais et le modèle de succession à 9 générations, les princesses irlandaises, c'est pas ça qui manque. Néanmoins, ça reste quand même assez symbolique. Les roitelets irlandais, grands fournisseurs de princesses, feront aussi partie du système politique et traités comme seigneurs locaux, faisant partie du système féodal. Le pouvoir et l'économie s'organisent autour de villes nouvelles. On l'avait vu, l'Irlande pré-conquête était une économie plus pastorale, avec des troupeaux plus que des terres. Les villes qui existaient, c'était principalement un héritage des Vikings, Dublin, Wexford, Waterford, Limerick. C'est des comptoirs commerciaux. Nombre des nouvelles villes et villages sont établis par les Normands à cette période. On fait même venir des colons d'Angleterre, mais Hugues de Lacy fait revenir les paysans gaéliques qui habitaient les terres conquises, leur donnant des droits similaires aux colons. Le pouvoir anglais centralisateur se solidifie jusqu'en 1250 à peu près, avec l'établissement de mêmes normes légales pour tous les habitants des terres conquises. Ce mouvement de centralisation va se faire en passant sur les magnats anglo-normands, ces grandes familles ayant profité de la conquête, et dont beaucoup s'étaient depuis mélangés, comme les Fitzgerald, mais aussi la famille du premier administrateur, Hugues de Lacy. Alors, au milieu du XIIIe, vers 1250, une série de problèmes de succession et de nouvelles guerres vont suffisamment distraire le pouvoir anglais pour que ces roitelets irlandais puissent reprendre du poil de la bête et extraire certains territoires et royaumes du système féodal anglais. C'est ce qu'on va appeler la Gaelic Recovery. Les colons, qui sont principalement dans les terres fertiles du sud de l'île, Munster autour de Cork par exemple, sont repoussés par les seigneurs irlandais. Puis, c'est en 1315, l'invasion des seigneurs écossais, les Bruce. C'est la famille du roi dans Braveheart. Qui va attaquer et bouter les colons hors d'Ulster, au nord de l'île. Par contre, le pouvoir anglais va rester assez fermement en place en Leinster, la côte est autour de Dublin. Mais clairement, c'est une débâcle en fait par rapport au premier succès de la conquête. La peste noire, ensuite, s'attaquant principalement aux villes et aux villages, va affaiblir encore plus le pouvoir anglais, qui se base sur ces villes et ces villages. restent les rois de l'Irlandais, les seigneurs hiberno-normands, c'est-à-dire irlando-normands, et quelques administrateurs à Dublin. Les noms de famille permettent de distinguer en théorie les rois de l'Irlandais et les hiberno-normands, mais c'est à peu près tout. Les familles sont mariées entre elles depuis le début de la conquête, ils parlent tous gaéliques, ils ont des cours gaéliques et se battent comme des gaéliques, à pied. Voilà où nous en sommes, quand le Moyen-Âge arrive à sa fin. Voilà où nous pouvons arrêter une première phase de la présence anglaise en Irlande. Il y aura une deuxième phase à partir d'Henri VIII, grand tyran, apostat, pervers, psychopathe et homme que je ne regrette pas de ne pas pouvoir rencontrer dans la vraie vie. Alors on peut se poser une question importante, comme j'en parlais en introduction. Dans l'épisode d'introduction de cette série, j'avais dit les deux choses suivantes. Parfois, un pays, un peuple, une île va vivre une longue colonisation, passer par des phases plus ou moins violentes, mais en sortir plus cohérent, plus nationalisé. Un pays qui aurait vu passer toutes les phases classiques de colonisation, une ur-colonie européenne. Puis, plus spécifiquement sur l'Irlande, l'Irlande, et on le verra, a vécu des archétypes de la colonisation. Un roi détrôné réclame de l'aide d'une puissance. Des aventuriers qui arrivent et se voient plus tard légitimisés par la métropole. Un remplacement des appareils d'État, des colons, des plantations, et plus tard un génocide. Voire deux génocides, soyons généreux. Puis, une situation d'apartheid, où les catholiques devinrent pour plusieurs siècles des citoyens de seconde classe dans leur propre pays. Alors, posons-nous cette question. Nous sommes en 1400. Peut-on dire que l'Irlande a été colonisée ? Mon hypothèse initiale était que tout ceci était un long mouvement de colonisation, qui peut-être avait eu plusieurs phases, mais dès le début, se serait mis en place avec un modèle qu'on pourrait reconnaître. Reprenons la définition de colonisation que j'avais pu présenter dans les épisodes sur les croisades du Levant et sur 1066. La colonisation est la conquête et la domination violente d'une ethnie culturellement et géographiquement différente, avec redirection des flux économiques au bénéfice de la métropole. On avait vu comment cette définition s'appliquait aux colonisations modernes, avec le caoutchouc indochinois qui alimentait les usines Renault, ou l'agriculture algérienne des plantations qui nourrissait la métropole française. Mais ça couvre aussi des colonisations différentes, la conquête de la Sibérie par les Russes par exemple, avec une restructuration de l'économie vers l'extraction, fourrure d'abord, puis bois et minéraux vers la Russie européenne. Mais aussi le Midwest américain, où, comme en Russie, les nations et les états locaux furent déplacés ou exterminés pour faire place à une agriculture et un pastoralisme à grande échelle, représentés par les fameux cow-boys. La viande, le blé allaient vers Chicago, New York, au bénéfice des industriels et marchands de la côte Est, plutôt que des Amérindiens. On retrouve des éléments économiques, mais aussi des éléments de domination légale. On en avait parlé dans l'épisode précédent, le monde occidental se fonde sur le droit. Le droit, la lex, est maître, et doit sous-tendre les efforts les plus violents. On fait des traités, des accords, on récupère des bulles papales. C'est une spécificité occidentale sur laquelle je ne vais pas m'étendre ici, mais notons qu'on signe des contrats avec le diable lui-même, et qu'il doit s'y plier, ce qui est assez peu courant dans les autres folklores. Dans une colonie, on a des sujets de seconde classe, les Algériens musulmans avec leur statut particulier, les nations amérindiennes dans les réserves. Plus tard, les gaéliques catholiques irlandais auront ce statut. Plus tard, oui, mais pas là. Et ça, c'est un des grands points qui me font dire que ce qui s'est passé en Irlande au Moyen-Âge n'est pas une colonisation, mais une conquête. On va voir ça en trois points. Premièrement, je vais dégager un point qu'on m'a adressé, qui était que ce ne pouvait de toute façon pas être une colonisation, vu qu'il n'y avait pas d'état colonisateur à l'époque. Pas d'état assez fort. Le point vaut la peine d'être discuté, et on va commencer par ça. Ensuite, on va repasser sur l'aspect légal évoqué juste au-dessus. Puis, nous finirons par une discussion sur présence ou non d'une domination économique. L'absence d'État. Commençons par ça. Pas juste pour l'évacuer, mais aussi parce que c'est assez intéressant. Un argument pourrait être fait que la colonisation ne peut être que le fait d'un État. C'est d'ailleurs ce que je sous-entends dans ma définition quand je parle d'une redirection des flux économiques vers la métropole. La colonie est subordonnée à une métropole, et donc à un ensemble politique relativement homogène, capable d'organiser un système politique et économique pour organiser cette relation de subordination de la colonie à la métropole. C'est pour ça que j'avais conclu que les croisades du Levant n'étaient pas un projet colonial. Les royaumes latins n'étaient pas subordonnés à des royaumes européens. Le roi de Jérusalem n'était pas vassal du roi de France, par exemple. Pas d'état colonisateur, donc pas de colonie. Il s'ensuit que les royaumes du Moyen-Âge n'étaient pas suffisamment centralisés pour être appelés des états au sens moderne du terme. Les liens personnels croisés entre seigneurs, suzerains, vassaux, l'absence d'administration centrale, la multiplication des juridictions et des armées, l'absence de monopole de la violence légitime. On peut aussi noter qu'un État serait une notion d'intérêt de l'État, et pas juste de l'intérêt du dirigeant. Je m'explique. Si je suis roi de France, est-ce que mon intérêt est celui de la France ? Que se passe-t-il si la meilleure chose que je peux faire pour mon pays, c'est que ma famille ne soit plus la dynastie régnante ? Que je laisse le pouvoir à d'autres. Ça, c'est la différence de nos jours entre un état stable, avec des passations de pouvoir pacifiques comme en France ou en Allemagne, ou des états instables où les clans se battent pour avoir le contrôle des ressources. Tant pis si le pays brûle, tant que c'est eux, spécifiquement, qui le contrôlent. On pensera à la Syrie avec le clan Al-Assad. Tout ça ferait l'argument qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de vrai État. Et du coup, on ne peut pas avoir un État qui exerce une volonté unifiée de colonisation sur une zone. Bien. Une fois qu'on a dit ça, il y a un débat qui existe pour savoir si l'Angleterre anglo-normande était un État central. Il y avait certainement une structure administrative centrale qui a été, je pense, aidée par le fait que la légitimité datait de la conquête. Les grands seigneurs étaient des Normands qui devaient tous leur pouvoir au roi Guillaume. Et ça, je le souligne, parce que ça contraste énormément avec le continent, où on pouvait avoir des seigneurs des lignées qui dataient d'avant la consolidation par telle ou telle dynastie. En grattant un peu, je suis sûr qu'on pourrait trouver des survivances de familles romaines. En Angleterre, les Normands ont fait table rase, aidant à créer une administration centralisée sur un modèle que, je pense, colonial. On a notamment tout le recensement du fameux Domesday Book, qui fait le recensement de toutes les ressources économiques du royaume environ 10 ans après la conquête. Ce genre de catalogage très détaillé est quelque chose qu'on voit souvent dans les projets coloniaux. La première carte d'Irlande se fera d'ailleurs après une campagne de pacification particulièrement brutale sous Cromwell au XVIIe siècle. L'État anglo-normand, à cette époque-là, est beaucoup plus centralisé que la France, à la même époque. Le roi est moins contesté, on a moins de grandes familles semi-indépendantes. Là où le roi de France devait composer avec des ducs d'Aquitaine qui remontaient au moins à Charlemagne, Guillaume le Conquérant avait fait attention à casser les pouvoirs et n'avait pas à composer avec ce genre de bloc qui serait plus légitime que lui. Pour moi, cette Angleterre anglo-normande est donc un pouvoir centralisé capable d'exercer une volonté cohérente sur ses voisins, comme on le voit aussi en Écosse à la même époque. D'ailleurs, Dermat, qu'on a vu dans les épisodes précédents, va aller d'abord voir Henri II pour avoir l'autorisation de recruter des troupes pour reconquérir son trône. il ne va pas directement voir Strongbow, qu'il connaissait pourtant. Ça démontre, en partie et dans une certaine mesure, la force d'un État, à cette époque, en Angleterre. Comme cet État tentait de créer une hégémonie sur l'Écosse en tant qu'État anglais, il met en place une même domination en Irlande. D'ailleurs, Hugues de Lacy est l'administrateur et est mis en place par le roi. Ce n'est pas le plus grand seigneur de l'Irlande, c'est l'administrateur royal, représentant de l'État central et doté de vrais pouvoirs. Sur cet aspect-là, on pourrait parler de colonisation, effectivement, parce que l'État anglo-normand est suffisant pour imposer sa volonté. L'aspect légal. L'aspect légal est plus compliqué à voir à cette période, à cause de la multiplicité des autorités. L'État est peut-être central en théorie, mais en pratique, on n'a pas non plus le niveau de contrôle qu'on a aujourd'hui, faut pas exagérer. Et la pratique du pouvoir est souvent déléguée aux seigneurs, qui l'appliquent selon leurs préférences. On va voir deux aspects différents ici. Le niveau des paysans et le niveau des nobles. C'est-à-dire le niveau des nobles et des clercs de haut niveau, et tous les autres. Commençons par quelque chose d'intéressant. Quelque chose de cher à mon cœur. Fernand Braudel. Braudel nous dit qu'une civilisation se définit par ses villes, que c'est ça qui fait qu'on est en face d'une civilisation structurée et pas juste d'une culture plus diffuse. Et effectivement, comme on en a parlé il y a quelques instants, on va voir ça très souvent dans les pratiques coloniales, où les colonisateurs se rassemblent dans des villes existantes ou très souvent en fonde de nouvelles. C'est aussi logique, si on est une minorité dans un territoire conquis et hostile, c'est pratique de se regrouper. Au Moyen-Âge, une grande partie du droit va s'appliquer dans les villes, surtout dans ces phases d'expansion. On va avoir des progressions en tache d'huile autour de ces bourgs, avec leurs châteaux, leurs églises et leurs monastères. Mais même si des villes existaient avant la conquête normande de l'Irlande, elles étaient rares et avaient souvent été fondées par les Scandinaves. On en a beaucoup parlé précédemment. Les Normands, eux, vont refaire un maillage de villes et de villages. Dans ces villes et villages, on va effectivement parfois voir une distinction entre gaéliques et colons. Les colons, qu'on va appeler les Anglais, auront la meilleure partie de la ville. Et les gaéliques seront repoussés en banlieue. On aurait donc alors une vraie distinction légale entre les ethnies, comme il se passait ou s'était passé lors de la conquête normande de l'Angleterre. Mais à l'inverse, Hugues de Lacy, premier administrateur de l'Irlande, avait pour plan de ramener les gaéliques dans le giron de la loi anglaise, quand ils revenaient après les tumultes de la conquête. Sans que lui ne parle de différence légale. Au contraire, il voulait la même chose pour tous. Au niveau des classes dirigeantes, on va voir quelque chose d'assez différent. Ce qu'on voit dans les colonisations modernes, c'est une séparation qui est très claire entre les races. Cette séparation raciale est une des grandes choses auxquelles on pense aujourd'hui quand on parle colonisation. Ce sont les plantations, les esclaves noirs, les indiens dans les réserves. Les administrateurs viennent de la métropole et remplacent les élites préexistantes comme décideurs. C'est le fardeau de l'homme blanc, etc., etc. Les races sont séparées et sont le marqueur de séparation. Mais en fait, dans l'histoire humaine, c'est quelque chose d'assez tardif. Ça émerge à partir du moment où on a des colonisations plus massives, avec de l'esclavage, mais surtout des moyens de transport permettant de ramener les femmes administrateurs. On a vu ça dans la dernière saison avec les Hollandais aux Indes, qui, en plus de faire un des premiers génocides de la colonisation, ont établi une forte séparation des races, se plaignant même de ne trouver que des femmes portugaises et refusant absolument de se marier aux Asiatiques. C'est une peur du sang mêlé qu'on va beaucoup retrouver, jusque d'ailleurs dans les discours d'extrême droite moderne. La légitimisation du pouvoir colonial vient du fait que le colonisateur est une race supérieure et a donc le droit de coloniser. Évidemment. Ça pousse à la définition et à la solidification des races, avec de fortes séparations à ne pas traverser. Se marier dans une union légitime avec la race colonisée devient alors une trahison du colonisateur. Du coup, que voit-on en Irlande ? Eh bien, on voit l'absence de frontières ethniques aussi marquées. Strongbow va devenir roi de Leinster en mariant la fille de Dermot. Hugh de Lacy, premier administrateur anglais, va marier la fille du haut roi Rory O'Connor. 100 ans plus tard, les familles parlent gaélique, sont complètement prises dans ces liens familiaux. De même, sans être administrateur, les grandes familles irlandaises vont rester de grands propriétaires terriens, la haute noblesse de l'île. Et on va rajouter un truc. Hein. Soyons clairs, à l'époque, les paysans, ça compte pas. C'est normand, français, scot, de toute façon, on s'en fout, ils ont pas voix au chapitre. C'est des bouseux, là, dans les tables, ils font ce qu'on leur dit. C'est les nobles qui comptent. Et pour le coup, on voit une égalité, et surtout une absence de frontières, autant que j'ai pu voir, entre gaélique et anglo-normand, jusqu'à ce qu'ils forment une nouvelle caste d'hiberno-normand, de Hibernia, l'Irlande en latin. Cette notion de caste est intéressante, et recoupe avec des choses qu'on a vues dans les saisons précédentes. Lorsque le Portugal vient dans l'océan Indien, il est trop compliqué d'amener des femmes. Les soldats et administrateurs portugais vont donc se marier avec des femmes locales, indiennes et indonésiennes. Les enfants seront donc métis et deviendront des rouages très importants et visibles du système portugais dans l'océan Indien. Ce sont les fameux mestizos. On voit une dynamique similaire avec les enfants des employés de l'East India Company au XVIIIe siècle. A l'inverse, lorsque les Hollandais viendront, ils feront très attention à ne pas se mélanger avec les ethnies locales et soit amèneront des femmes d'Europe, soit ne marieront avec des femmes portugaises sur place en prenant soin de limiter le métissage. De même lorsque l'Inde sera plus dominée par le Royaume-Uni. Mais ces métis restent une caste intermédiaire. Ils sont mieux traités que les indigènes en général, mais font face à un plafond de verre et n'intègrent pas les structures centrales de pouvoir. Il semble que la barrière soit moindre pour les hiberno-normands. Alors, est-ce une idéologie différente, ou juste que, physiquement, c'est plus dur de distinguer le métissage entre un normand et un celte qu'entre un hollandais et un indonésien ? Peut-être, mais faudrait continuer des recherches sur le sujet. Par contre, si des métis hiberno-normands font partie de l'élite métropolitaine, je ne crois pas avoir vu de famille gaélique gardant leur nom gaélique faire partie de cette élite métropolitaine. Je peux me tromper, mais on voit donc des distinctions intéressantes qu'il faudrait explorer plus avant. Globalement, pour résumer, les colonisations vont en général être marquées par cette différence ethnique qui est soulignée par l'administration coloniale, renforcée par le droit. Les métis peuvent exister, mais forment en général une caste intermédiaire qui est inférieure aux métropolitains, même si elle est supérieure aux indigènes. On retrouve ça dès l'Empire romain, même si, je note, et c'est très important, parce qu'on voit beaucoup de conneries sur le sujet, la notion d'ethnicité et de race est très largement différente, pour ne pas dire que la notion de race telle qu'on la comprend actuellement n'existe pas sous l'Empire romain. Bref. Dans la conquête de l'Irlande, la frontière, cette frontière est très floue, avec des familles qui procèdent à un métissage rapide et profond, tout en gardant leur statut et leur pouvoir. La séparation ethnique n'est pas mise en place, et une assimilation des paysans et nobles au système métropolitain est privilégiée. Ça pointe donc vers une conquête plus qu'une colonisation. Domination économique. Passons maintenant au dernier volet, l'aspect économique. Un aspect courant des colonisations est que la métropole va profondément intervenir dans l'économie de sa colonie. Changer les modes de production, ce qui est produit, les débouchés géographiques et industriels, évidemment à son profit. Par exemple, les Caraïbes. Saint-Domingue-Haïti, qui va se mettre à produire du sucre et du tabac en masse, ce qu'il ne faisait pas avant, surtout avec un mode de production basé sur l'esclavage. Un autre exemple, l'achat en masse de fourrures de Sibérie qui va soutenir la colonisation russe de l'Asie. Sans changer ce qui est produit, on peut changer les modes de production, c'est-à-dire la façon dont on produit les choses, le système économique et la façon dont on organise le travail. Par exemple, le génocide des îles Banda par la VOC dont on a parlé la dernière saison. Les îles Banda produisaient déjà de la muscade, mais la VOC, la Compagnie des Indes Orientales Néerlandaises, va faire un monopole à son propre bénéfice et va établir des plantations en coupe réglées pour produire un maximum de muscade. On pourra aussi penser aux mines du Potosi dans les Andes. On va commencer par revenir rapidement sur ce que j'avais pu dire dans l'épisode sur la conquête normande, 1066, moment colonial. Il est possible que j'ai pu surévaluer l'impact de la conquête, notamment sur la transition d'une économie agricole de petits paysans vers une économie tournée vers l'exportation de laine par de grands propriétaires, point que j'avais voulu illustrer et sur lequel j'avais basé une partie de mon analyse. Ça, c'était peut-être surestimé. Par contre, cette transition a bien existé. De plus, la conquête normande de l'Angleterre a poussé à une grande redistribution et une concentration de la terre en moins de mains. La couronne, c'est-à-dire Guillaume le Conquérant et sa famille, auraient concentré, à eux seuls, 17% des revenus de la terre après la conquête, et les barons normands, 49% dans leur ensemble. Les propriétaires indépendants, petits propriétaires terriens et anglo-saxons d'avant la conquête, ne tiennent plus que 8% des revenus de la terre. C'est énorme comme changement. On a donc ce changement de qui possède le titre de propriété et qui a l'argent, qui va avec évidemment. Mais on a aussi un mode de possession qui va changer. Je m'explique rapidement, c'est du féodalisme. Techniquement, toute la terre est à Guillaume et la couronne, et ils accordent des titres à leurs vassaux. Ces vassaux vont faire une économie manoriale, c'est-à-dire tournée autour du manoir, du château, qui va concentrer la transformation et les activités à plus forte valeur ajoutée. Typiquement, le moulin pour moudre le grain. C'est un système qui est beaucoup plus centralisé que ce qu'il y avait avant. Autre point important, même si j'ai pas pu trouver de chiffres, il est accepté dans la littérature académique que l'Angleterre anglo-saxonne est traditionnellement tournée vers la Scandinavie, alors que l'Angleterre normande est, elle, tournée vers le continent. On voit bien qu'il y a une restructuration et une redirection des flux économiques, au bénéfice d'une classe dirigeante étrangère. Je reste donc sur mon analyse initiale de 1066 comme moment colonial. C'est important de rappeler tout ça, déjà parce que il faut être correct.
Il a dit, elle est forte, celle-là. Soyez correct. Qu'il soit correct.
Mais surtout, pour comparer de ce qui s'est passé en Irlande. Après la conquête normande de l'Irlande, il y avait donc des zones sous contrôle de roitelets irlandais, ayant prêtant allégeance à la couronne anglaise, après s'être fait rouler dessus, et des seigneurs anglo-normands. C'est une première différence avec l'Angleterre où, comme on l'a vu, l'élite anglo-saxonne n'existe plus en tant que puissance économique. 8% des revenus, ça n'existe pas en tant que puissance économique. Par contre, dans les zones sous contrôle des seigneurs anglo-normands, on va effectivement voir une transformation similaire à ce qui s'est passé en Angleterre. Là où l'économie irlandaise était restée et va rester en grande partie basée sur le bétail, et donc la viande, le cuir, les produits laitiers, les anglo-normands vont préférer les céréales. Ils vont implanter des manoirs et faire venir des paysans anglais pour faire pousser des céréales comme du blé ou du seigle. Avec les nouvelles techniques d'agriculture qui viennent du continent et qui sont d'ailleurs, à ce moment-là, en train de provoquer la poussée démographique européenne. Ça se couple avec un essor de quelques villes côtières en plus des villes existantes comme Dublin ou Oxford. L'Irlande va donc devenir exportatrice de céréales à assez grande échelle sur le marché local. On a donc effectivement un changement de mode de production et la création d'une économie d'exportation. deux points néanmoins pour tempérer ça. L'économie pastorale irlandaise va continuer, et cette nouvelle organisation manoriale se fait en parallèle de l'existant. Elle ne le remplace pas. Second point, bah les liens commerciaux avec le reste de la Grande-Bretagne existaient déjà, donc il n'y a pas une restructuration comme on avait pu le voir en Angleterre. Ils exportaient déjà en Angleterre et vont continuer à surtout exporter vers l'Angleterre. Néanmoins, selon moi, on voit effectivement un phénomène colonial dans l'économie irlandaise d'après la conquête, même s'il n'est pas aussi brutal, aussi total qu'on peut le voir après 1066 en Angleterre. Conclusion. Du coup, colonial, eh bah, ni oui ni non, c'est compliqué. Je reste dans le thème, c'est une belle réponse de Normand. Je ne pense pas que la réponse soit tout simplement oui ou non. Des élites locales restent très largement en place, les élites anglo-normandes s'intègrent, malgré la conquête et deviennent hiberno-normandes, jusqu'à en adopter les mœurs et la langue. La culture va rester en place. Néanmoins, les familles gaéliques qui vont rester très puissantes ne vont pas être dans le système de pouvoir de la métropole. Il reste une certaine barrière. On a vu aussi que la conquête avait apporté de grands changements économiques, avec la constitution d'une certaine économie d'exportation. Mais faut pas surévaluer tous ces changements, hein. On n'est pas face à une colonisation à grande échelle qui va radicalement changer la société à court terme, telle que 1066 ou l'Algérie française. Mais des changements ont effectivement eu lieu avec une certaine perte de souveraineté. Que dire alors? Eh ben je dirais que c'est principalement une forme de conquête, plus que de colonisation, mais qu'on ne peut pas en ignorer l'aspect colonial. Le sujet reste à débattre, et c'est le genre de question qui ne sera jamais complètement résolue. Tout ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on connaît de la colonie d'Irlande, de la Grande Famille, de la guerre d'indépendance moderne, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec ce qu'on peut voir au Moyen-Âge. La vision de la chose est différente, l'objectif est différent. Le règne d'Henri VIII et la réforme protestante seront des moments charnières dans ce changement de vision, comme on le verra ensemble. J'espère que cette analyse vous a intéressé, merci d'avoir écouté, et à bientôt pour un nouvel épisode.
As down the glen one nears the morn to a city.